Chers amis auditrices et auditeurs, bonjour. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle étude de la Bible dans cette leçon de l'école du sabbat.
Bonjour amis auditeurs, nous continuons nos études sur l'inspiration des prophètes. Et justement cette semaine, la semaine du 24 au 30 janvier 2009, la semaine s'intitule « L'inspiration des prophètes ». Un premier verset à mémoriser nous est donné. « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour réfuter, pour redresser, pour éduquer dans la justice. » 2 Timothée 3, verset 16. Quelques questions clés. Quelle est la différence entre l'inspiration et la révélation? Entre l'inspiration des paroles et celle de la pensée? Les prophètes peuvent-ils se faire aider lorsqu'ils écrivent? Voyons quelques exemples de prophètes ayant cité des textes non bibliques. Eh bien, nous commençons par quelques lignes d'introduction. Depuis toujours, les chrétiens débattent de cette question. Quand on dit que la Bible est inspirée, qu'est-ce que cela signifie? Pour nous, adventistes du septième jour, la même question se pose à propos de l'inspiration d'Ellen White. Voici ce qu'elle écrit en 1906 à un médecin adventiste pour réfuter l'idée selon laquelle chacun des mots qu'elle rédigeait était aussi inspiré que les 10 commandements. Voici ce qu'elle dit. « Mon frère, vous avez étudié diligemment mes écrits et vous n'avez jamais pu constater que j'ai avancé de telles prétentions. Vous ne verrez pas non plus que les pionniers de notre cause aient jamais formulé de telles prétentions. » C'est une citation tirée du livre « Message choisi ». Et cette semaine, nous étudierons certaines de ces questions en rapport avec l'inspiration. Commençons par le dimanche 25 janvier 2009. La journée s'intitule « Révélation et inspiration ». Et nous allons voir ce que disent quelques textes à propos du rôle joué par Dieu dans la rédaction des livres de la Bible. Et là, nous vous proposons encore deux ou trois textes. Voici tout d'abord dans 2 Timothée, la deuxième épître à Timothée, chapitre 3 et le verset 16, dit ceci « Toute écriture est inspirée de Dieu » est utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice. Un autre texte, dans la deuxième épître de Pierre, chapitre 1er, les versets 19 à 21, « Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour commence à poindre et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Avant tout, sachez qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'interprétations particulières, car ce n'est nullement par une volonté humaine qu'une prophétie a jamais été présentée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. » Dans ce épître de Paul à Timothée que nous avons lu à l'instant, Paul déclare que la Bible est insufflée par Dieu. La version latine de la Bible traduit ce mot par l'expression « scriptura divinitus inspirata », d'où dérive le mot « inspiré ». Paul veut dire ici que la Bible est née d'une intervention du Saint-Esprit. Celui-ci a révélé la vérité aux prophètes par des visions et des rêves. Il s'est ensuite assuré en les guidant dans la rédaction de textes que ce qu'ils écrivaient était bien en harmonie avec ce qui leur avait été révélé. C'est l'inspiration. Il est dit dans 2 Pierre 1, verset 21, que c'est porté par l'Esprit Saint que des humains ont parlé de la part de Dieu. Ainsi, les notions de révélation et d'inspiration renvoie au processus au cours duquel le Saint-Esprit révèle d'abord aux prophètes ce que Dieu veut leur communiquer, puis les guide dans la proclamation de ce message. Certains prophètes se sont exprimés par la parole, d'autres par la plume. La forme écrite est devenue l'écriture inspirée, donc écriture insufflée par Dieu. Même si dans le Nouveau Testament, les apôtres revendiquaient moins souvent leur inspiration que les auteurs de l'Ancien Testament, il est clair qu'ils considéraient leur message comme émanant d'une autorité divine. Paul, par exemple, écrivait « Et nous en parlons non avec les discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit. » Ou encore, il dit ceci « En recevant la parole de Dieu, que nous vous avons fait entendre, vous l'avez accueillie, non pas comme une parole humaine, mais comme ce qu'elle est vraiment, c'est-à-dire une parole de Dieu. » Pourtant, la Bible a également une dimension humaine. À première vue, elle possède toutes les caractéristiques d'un texte rédigé par des hommes. Les auteurs, en relatant leurs expériences, parlent d'eux-mêmes à l'aide de pronoms personnels. Leurs écrits évoquent les coutumes et les traditions de leur époque. Certains des psaumes ou des proverbes se font même l'écho de la littérature et de la culture des nations environnantes. En bref, bien qu'inspirée par le Seigneur, la Bible reflète également la nature humaine de ses auteurs. Continuons avec la journée du lundi 26 janvier 2009, et là, elle a pour titre « Inspiration des mots » ou « Inspiration de la pensée ». Et voyons ce que nous apprennent quelques textes sur l'inspiration des Écritures. Nous continuons donc dans ce domaine, et nous avons un premier texte dans Ésaïe, le prophète Ésaïe, chapitre 2, nous allons lire les deux premiers versets. « Parole reçue en vision par Ésaïe, fils d'Amos, sur Juda et Jérusalem. Il arrivera à la fin des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y afflueront. » Un autre texte tiré du prophète Ézéchiel, chapitre 36 et verset 16. « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. » Un autre texte, 1 Corinthiens, chapitre 7 et verset 10. À ceux qui sont mariés, j'ordonne, c'est l'apôtre Paul qui parle, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare pas de son mari. Et enfin, un autre texte tiré de l'Épître aux Thessaloniciens, chapitre 2 et verset 13. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez accueillie non comme la parole des hommes, mais comme ce qu'elle est vraiment, la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Il existe sur l'inspiration deux théories essentielles. L'inspiration au niveau du choix des mots ou inspiration verbale. Elle met l'accent sur les mots de la Bible plutôt que sur ses auteurs. Tous les mots sont considérés comme inspirés par Dieu, celui-ci tenant compte du vocabulaire et du contexte culturel de chaque écrivain. Selon cette conception, seuls les écrits originaux des auteurs bibliques sont inspirés et non les copies qui peuvent contenir des erreurs. Mais il ne s'agit pas pour autant de textes dictés mot à mot par le Saint-Esprit sans aucune référence au vocabulaire et au contexte culturel de l'auteur comme dans la théorie de l'inspiration dictée. Ensuite, l'inspiration au niveau de la pensée. L'accent est mis ici sur l'auteur et non sur ses mots. Ce sont essentiellement les pensées du prophète qui sont inspirées, et non les mots qu'il rédige ou prononce, sauf quand il cite les paroles de Dieu ou celles d'un ange, ou encore lorsque par son intermédiaire, Dieu s'adresse directement aux hommes. L'auteur reçoit une vision, un rêve ou une pensée qu'il rédige avec ses propres mots. Le Saint-Esprit s'assure alors que les mots utilisés traduisent correctement la vérité divine. C'est pourquoi la Bible est considérée comme la révélation infaillible de la volonté divine. S'appuyant sur les Écritures et les écrits d'Ellen White, les adventistes croient à l'inspiration au niveau de la pensée. Ce ne sont pas les mots de la Bible qui sont inspirés, ce sont les hommes. L'inspiration agit non pas sur les mots ou sur les expressions, mais sur l'auteur lui-même, à qui le Saint-Esprit communique des pensées. Quant aux mots, ils portent l'empreinte de l'individualité. L'Esprit divin se répand, il s'unit à l'Esprit de l'homme, si bien que les déclarations de l'homme sont la parole de Dieu. C'est un extrait tiré d'un des ouvrages d'Ellen White qui s'appelle « Message choisi ». Comme l'indique la dernière phrase de la citation que nous avons lue, les paroles du prophète deviennent la parole de Dieu. David a écrit de même « Le souffle du Seigneur a parlé par moi, sa parole est sur ma langue » de Samuel, chapitre 23, verset 2. Cela montre bien que l'inspiration ne se contente pas de transmettre les pensées de Dieu, elle s'assure aussi que l'Écriture les traduira avec fidélité. Nous arrivons au mardi 27 janvier 2009, et là, il s'agit des visions et les réactions physiques qu'elles provoquent. Nous allons voir quels pouvaient être les effets produits par les visions sur les prophètes qui les recevaient. Et là, nous avons quelques textes que nous tirons tout d'abord du prophète Daniel. Nous lirons au chapitre 10 du prophète Daniel, nous lirons les versets 7 à 9. « Moi, Daniel, je vis seul la vision, et les hommes qui étaient avec moi ne virent pas la vision, mais ils furent saisis d'une grande frayeur et prirent la fuite pour se cacher. Je restai moi seul, et je vis cette grande vision. Les forces me manquèrent, mon visage pâlit et fut décomposé, et je n'eus plus aucune force. J'entendis le son des paroles, et comme j'entendais le son de ces paroles, je fus frappé d'étourdissement, la face contre terre. » Nous continuons avec le chapitre 10 et les versets 17 et 18 du même chapitre. « Comment le serviteur de mon Seigneur pourrait-il parler à mon Seigneur? Maintenant aucune force ne subsiste en moi et le souffle me manque. Alors celui qui avait l'aspect d'un homme me toucha de nouveau et me fortifia. » Encore un texte tiré du livre des Actes. Chapitre 9, nous lirons les versets 1 à 6. Cependant, Saul, qui respirait encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il s'y trouvait quelques-uns, hommes ou femmes qui suivaient cette voie, il les amène liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur lui dit « Moi, je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Tout tremblant et stupéfait, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Alors le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville, et l'on te dira ce que tu dois faire. » Et un dernier texte pour cette journée, Apocalypse 1er, verset 17. « Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant « Sois sans crainte. » Eh bien voilà, nous allons maintenant étudier ce sujet. Se tenir en présence d'un être céleste est une expérience impressionnante. Daniel, Saul, c'est-à-dire l'apôtre Paul, et Jean sont tous tombés à genoux lorsque Dieu leur a envoyé une vision. Daniel écrit « je n'eus plus aucune force. Et Jean, je tombai à ses pieds comme mort. » Ellen White décrit sa propre expérience par ces mots. « Souvent interrogé au sujet des conditions dans lesquelles je me trouve au moment où mes visions et après celles-ci, je dirai ceci. Quand il plaît au Seigneur de m'accorder une vision, je me trouve en présence de Jésus et des anges, et je perds complètement de vue les choses terrestres. Je ne puis rien apercevoir au-delà de ce que l'ange me montre. » Un extrait du livre « Message choisi ». En 1868, son mari, James White, a fait d'elle cette description au moment de ses visions. Premièrement, elle est totalement inconsciente de ce qui se passe autour d'elle. Deuxièmement, elle ne respire plus. On s'en est aperçu à plusieurs reprises en appuyant sur sa poitrine, en lui fermant la bouche et en lui bouchant les narines. Troisièmement, au moment où elle entre en vision, ses muscles et ses articulations deviennent rigides, sans qu'aucune force extérieure ne puisse les faire plier. Quatrièmement, lorsqu'elle sort de sa vision, que cela lui arrive de jour ou dans une pièce bien éclairée la nuit, elle se retrouve plongée dans l'obscurité. Elle ne retrouve que graduellement l'aptitude à distinguer même les objets les plus brillants placés à quelques centimètres de ses yeux. De nombreuses personnes l'ont observée pendant ses visions. Parmi elles, Joseph Bates qui a écrit ceci. Je l'ai vu en vision plusieurs fois, ainsi qu'à Topsham, dans le Maine. Ceux qui se sont trouvés présents lors de ces moments fascinants savent avec quel intérêt et quelle intensité j'écoutais ses paroles et guettais ses moindres mouvements afin de détecter une supercherie quelconque ou quelque influence hypnotique. Et je remercie Dieu d'avoir eu l'occasion d'assister à ces scènes avec d'autres personnes. Je peux aujourd'hui affirmer qu'il s'agit bien de l'œuvre de Dieu. Ainsi s'achève cette journée du mardi 27 janvier. Concernant l'inspiration, nous allons voir le mercredi 28 janvier 2009, inspiration et aide littéraire. Le prophète n'était pas la plume de Dieu, mais son scribe. Il notait ce qu'il avait entendu ou vu en vision ou en rêve au mieux de ses capacités. Nous savons, d'après la Bible, que certains des auteurs bibliques avaient recours à des secrétaires pour les aider à écrire les messages de Dieu. Et nous allons lire quelques textes maintenant au sujet, justement, de ces secrétaires. Nous en trouvons un premier dans le prophète Jérémie. Jérémie chapitre 36 et les deux premiers versets. « La quatrième année de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, cette parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. « Prends un livre en rouleau, et tu y écriras toutes les paroles que je t'ai dites sur Israël, sur Juda, et sur toutes les nations depuis le jour où je t'ai parlé, au temps de Josias, jusqu'à aujourd'hui. » Un autre texte que nous trouvons dans l'Épître de Paul aux Colossiens, chapitre 4, versets 16 à 18. « Quand cette lettre aura été lue chez vous, faites en sorte qu'elle soit aussi lue dans l'église des Laodicéens, et que vous vous lisiez également celle qui vous arrivera de Laodicée. Dites à Archippe, prends garde au service que tu as reçu du Seigneur, afin de le bien remplir. Je vous salue, moi, Paul, de ma propre main. Souvenez-vous de mes chaînes, que la grâce soit avec vous. » Et nous avons un autre texte dans la deuxième épître de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 3, le verset 17. « La salutation est de ma main, à moi, Paul. C'est ma signature dans toutes mes lettres, et voilà mon écriture. » Ainsi, les auteurs de l'Ancien comme du Nouveau Testament faisaient appel à des secrétaires ou à des scribes pour rédiger les messages transmis par Dieu. À l'époque du Nouveau Testament, les scribes utilisaient parfois des tablettes de cire pour noter l'essentiel de ce que l'auteur leur dictait avant d'en rédiger une copie définitive. Avant d'envoyer sa missive, l'auteur la relisait pour s'assurer qu'elle reflétait bien ce qu'il avait voulu dire. Ellen White faisait également appel à des secrétaires de rédaction pour les raisons suivantes. Ayant quitté l'école à 9 ans, elle reconnaissait ses propres limites. « Je ne suis pas une grammairienne. À 45 ans, et avec l'aide du Seigneur, je m'efforce de bien connaître cette science. Dieu m'aidera, je n'en doute pas. » C'est pourquoi certains de ses assistants jouaient le rôle de correcteur. Ensuite, ses écrits étant très demandés, il lui fallait de l'aide. Après la mort de son mari, de fidèles assistants se joignirent à moi, dit-elle, travaillant inlassablement à recopier les témoignages et à préparer des articles en vue de la publication. Enfin, elle avait aussi besoin d'aide parce que la plupart de ses livres n'étaient pas rédigés comme tels, mais composés à partir de plusieurs articles. C'est Miriam Davis qui se chargeait de les rassembler. Elle reprend certains des articles publiés dans des revues pour en faire des livres. Elle possède également la copie de toutes les lettres que j'ai rédigées, c'est Ellen White qui parle. Quand elle compose un chapitre, il lui arrive de se souvenir d'un point particulier qui permettra de rendre le sujet plus évident. Elle fait des recherches, et quand elle a retrouvé le passage et pense que le chapitre y gagnera en clarté, elle l'ajoute. Ces livres ne sont pas de Myriam, mais de moi, car ils sont tirés de tous mes écrits. Ceci est tiré d'un ouvrage qui s'appelle « Message choisi ». Voilà pour cette journée du mercredi. Nous arrivons au jeudi 29 janvier et nous avons une inspiration particulière. Là, il s'agit de l'inspiration et du livre de Luc. Voyons ce que dit Luc sur la façon dont son évangile a vu le jour et qu'est-ce que cela peut nous apprendre sur l'inspiration. Lisons donc un premier texte qui se trouve dans l'évangile de Luc, chapitre 1, les 4 premiers versets. Puisque plusieurs ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, tels que nous les ont transmis ceux qui, dès le commencement, en ont été les témoins oculaires et qui sont devenus serviteurs de la parole, il m'a semblé bon à moi aussi d'avoir, après avoir recherché exactement depuis les origines, de te l'exposer par écrit d'une manière suivie. Excellent Théophile. C'est l'évangéliste Luc qui s'adresse à Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Luc ne semble pas avoir écrit son évangile à partir de rêves ou de visions. Il n'a pas non plus été un témoin oculaire des événements décrits. Il travaillait sur la base des informations glanées auprès d'autrui et sous l'inspiration et les directives du Saint-Esprit qui veillait à ce que ses écrits soient en harmonie avec la vérité historique et la volonté de Dieu. L'apôtre Paul, lui, non seulement était informé par d'autres personnes, mais il citait parfois des auteurs païens, comme par exemple dans le livre des Actes, chapitre 17 et verset 28, le poète sicilien Aratus. Et il écrit ceci, « C'est à Zeus que nous tous, en toutes choses, avons affaire, car nous sommes aussi s'alignés. » Paul fait appel à d'autres sources littéraires, toujours dans le but d'enseigner la vérité inspirée. Ellen White faisait également des emprunts à d'autres auteurs pour rédiger ses livres. Dans l'introduction du livre « La tragédie des siècles », elle écrit « Les grands événements qui ont marqué les progrès de la réforme pendant les siècles passés relèvent de l'histoire. Ils sont si universellement connus et admis que nul ne peut contester leur authenticité. Là où les scènes à retracer se sont trouvées résumées par quelques historiens de telle façon qu'elles cadraient avec le plan de cet ouvrage, j'ai cité mes propres paroles et indiqué la source. Mais je ne m'y suis pas astreinte de façon absolue, mes citations n'étant pas données comme des preuves, mais simplement en vertu de leur qualité descriptive. Un usage analogue a été fait des écrits se rapportant à l'œuvre et à la réforme à notre époque. Voilà, nous avons à méditer maintenant, pour terminer cette journée du jeudi, les prophètes qui ont recours à d'autres sources littéraires. Que penser de ces prophètes? Cela trouble de nombreuses personnes. Qu'est-ce que cela nous apprend? Cependant, sur la façon dont fonctionne l'inspiration. Après tout, pourquoi des prophètes sous l'inspiration du Saint-Esprit ne feraient-ils pas appel à d'autres écrivains pour mieux exprimer la vérité? Voilà, nous terminons cette semaine avec le vendredi 30 janvier, et ce jour-là, comme d'habitude, nous allons vous proposer quelques textes, citations. Voici tout d'abord une citation d'Ellen White tirée de son livre « Message choisi ». Et voici, dit-elle, que maintenant, quand je vous adresse un témoignage d'avertissement et de censure, plusieurs affirment que Ellen White n'a exprimé que sa propre opinion. Par là, vous avez offensé l'Esprit de Dieu, car vous savez comment le Seigneur s'est manifesté par le moyen de l'Esprit de prophétie. Le passé, le présent et l'avenir m'ont été dévoilés. Des visages inconnus m'ont été montrés, que j'ai reconnus des années plus tard quand j'ai eu l'occasion de les voir. Il m'est arrivé d'être arraché à mon sommeil avec une vive sensation de sujet qui m'avait été présenté précédemment. Alors j'ai écrit vers minuit des lettres qui ont traversé le continent et sont arrivées à point à une heure de crise et ont évité de graves désastres à la cause de Dieu. Telle a été la nature de mon travail pendant bien des années. Un pouvoir supérieur m'a contrainte à reprendre et à censurer des torts dont je n'avais aucune idée. Cette œuvre poursuivie pendant 36 années est-elle d'en haut ou d'en bas? Mes lettres et mes témoignages vous présentent ce que le Seigneur m'a montré. Il n'est pas un de mes articles qui se borne à exprimer mes propres idées. Il s'agit de ce que Dieu a fait défiler devant moi dans mes visions, de précieux rayons de lumière émanant du trône de Dieu. Un extrait du livre « Message choisi ». Voici quelques lignes à méditer maintenant pour terminer cette semaine. Certains émettent l'hypothèse qu'il y a des parties de la Bible plus inspirées que d'autres. Il est vrai que des passages peuvent nous sembler aujourd'hui plus pertinents que d'autres, mais cela ne veut pas dire qu'ils ne sont plus inspirés ou qu'ils sont plus inspirés que d'autres. Quels sont les dangers d'un tel point de vue? En y réfléchissant, posons-nous les questions suivantes. Qui décide de ce qui est inspiré ou non? Selon quels critères? En vertu de quelle autorité? Que se passe-t-il quand on se dispute pour savoir quelles portions de la Bible sont inspirées plus que d'autres? Réfléchissons à la vie et aux enseignements d'Ellen White durant ses longues années de ministère. Bien que nous ayons actuellement très peu de renseignements la concernant et concernant son ministère pendant cette période, et malgré le nombre de fois où ses écrits ont été tordus, quelles raisons évidentes nous incitent à croire que son don prophétique était bien réel? Eh bien, puissions-nous réfléchir à toutes ces questions, ces méditations et à la poursuite de cette leçon spéciale ce trimestre sur le don de prophétie. Eh bien, nous vous donnons rendez-vous à la semaine prochaine pour une nouvelle étude. À bientôt.
C'était votre leçon de l'école du sabbat. Merci et à bientôt. Que Dieu vous bénisse et Jésus revient. Jesus is Lord.